Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Vous écoutez le balado de l'IPS, l'émission toute désignée pour en apprendre plus sur les enjeux de santé, le développement du médicament ou démystifier la pharmacologie. Alors, bonjour ce matin. On est de retour après les vacances estivales en studio. Malgré qu'avec la température qu'il fait ce matin, on peut penser que l'été n'est pas tout à fait fini. Je pensais pas que j'allais un jour faire un balado en culotte courte, mais c'est aujourd'hui que ça se passe. Alors, j'ai en studio avec moi deux des panélistes de ce matin, les deux autres étant coincés dans l'infernal stationnement de l'UDS en début de session, qui est une marque de commerce quand même. Alors, je salue en studio Éric Leblanc, qui est coordonnateur du programme Acuité Québec. Bonjour.
Oui, bonjour Véro.
Et Jérôme Côté qui est également qui va être impliqué de près dans la fameuse formation dont on va parler ce matin à Acuité Québec. Bonjour Jérôme.
Salut.
Alors, on attend Marie-Claude Batista qui, elle, va être impliquée dans un autre module de la formation Acuité Québec. Puis, malheureusement, Ève Langelier, qui devait être avec nous ce matin pour la formation EDI, ne sera pas des nôtres, mais on va quand même en parler un peu plus tard dans cette émission balado. Alors, ce matin, on parle Acuité Québec. Qu'est-ce que c'est Acuité Québec, en fait? Ben, c'est une subvention qui a été annoncée en décembre 2021, le 13 décembre 2021, de 27 millions. Pourquoi? Pour avancer la recherche sur les médicaments, mais plus que ça, pour accélérer le processus de recherche du médicament. On se souvient, dans les balados précédents, on en a parlé, c'est une dizaine d'années pour trouver un médicament, 2 milliards en ce moment. Donc, c'est des recherches qui sont extrêmement longues, extrêmement chères. Puis le but de ce consortium-là, qui réunit plusieurs universités, dont l'Université de Montréal, l'Université de Sherbrooke et des partenaires industriels, ben, c'est justement de trouver une façon d'accélérer ce processus de recherche des médicaments-là. Puis, Éric, je ne sais pas si tu peux peut-être nous parler un petit peu plus en profondeur de ce consortium-là. Là, j'ai parlé en superficiel, mais vas-y.
Oui, ben, en fait, c'est ça. Le consortium Acuité Québec, c'est un regroupement de 12 projets. Il y a 12 chercheurs qui sont impliqués. Et chaque chercheur va avoir son partenaire industriel qui est impliqué dans le projet ou le développement des outils. Parce que dans le fond, ce qu'on développe, comme tu disais tantôt, c'est on développe des outils qui vont permettre aux chercheurs, pas juste du consortium, mais aussi de la province de Québec, de pouvoir visualiser et mieux prédire l'action des médicaments. Par exemple, on a un projet qui se trouve en imagerie. Et puis la raison pour ça, c'est que ça nous permet de voir si le médicament qu'on développe va se rendre où on veut. Par exemple, si tu veux faire un développement d'un médicament pour le cerveau, ben, tu veux pas que ton médicament se retrouve dans le pied gauche. Tu veux savoir qu'il se trouve vraiment au niveau du cerveau pour avoir son action.
OK. Donc, on en a parlé dans d'autres balados, même avec Jérôme, je pense, par rapport à la douleur, on a justement comment le médicament va se rendre au bon endroit. C'est un peu les tests qu'on fait quand on veut découvrir le médicament. Mais en quoi le consortium Acuité Québec va faire en sorte qu'on va accélérer ce processus-là au bout du compte? Là, c'est quoi qui vient se distinguer du processus normal dont on parle souvent dans les balados?
Bien, c'est ça, justement. C'est qu'en fait, le fait qu'on puisse développer ces outils-là, puis on puisse les rendre disponibles pour le reste de la province, mais aussi avec les partenaires industriels qui sont impliqués, bien, eux, ça leur permet d'avoir, avec l'aide de cette subvention-là, un développement d'un outil qui, encore une fois, va rajouter, parce que dans le fond, les gens vont contacter ces partenaires-là pour pouvoir développer leurs médicaments, les tester pour s'assurer qu'ils agissent de la bonne manière. Donc, c'est autant un aspect au niveau du développement, mais aussi l'aspect économique de la province qui est impliqué là-dedans.
Oui, parce qu'on sait que pendant la pandémie, on s'est rendu compte que Québec, on n'était pas outillé nécessairement pour produire des médicaments. On avait comme fermé beaucoup d'usines, on avait fermé beaucoup d'industries par rapport à pharmaceutique. Puis là, on se rend compte qu'on n'est pas autonome dans la production de médicaments. Puis c'est un peu ça. L'objectif aussi du consortium, si je ne me trompe pas.
Ouais.
Merci beaucoup, Éric. Puis là, bien, on a le consortium dont on vient de parler. C'est bien beau. On veut améliorer le processus de développement du médicament avec l'intelligence artificielle. On sait que c'est la grosse mode ces temps-ci, un gros trend. Donc, tout le monde veut faire de l'intelligence artificielle, veut faire de l'apprentissage par machine. Mais là, ça prend des gens pour opérer ces processus-là, right? Puis on a de la misère à trouver des personnes pour travailler chez McDo. Fait que c'est le but de la formation Acuité Québec qui va être greffée au consortium, mais c'est de former du personnel, hein, c'est ça, pour être capable de faire marcher ces processus-là qu'on va créer au bout du compte. Alors, On a Marie-Claude qui entre en studio au moment même où on se parle. Donc, elle a dû trouver une place de parking, ce qui est un miracle en début de session. Donc, si on parle justement du personnel hautement qualifié, Jérôme, est-ce que tu peux nous dire un peu qu'est-ce que c'est pour toi du personnel hautement qualifié en 2023 en recherche en santé, recherche du médicament?
Ouais, c'est une bonne question pour moi, ça. Je dirais que c'est du personnel qui a des compétences diverses, variées, non seulement en recherche, évidemment, là, on mm-hmm. parle de développement de médicaments, fait qu'il faut être apte à faire cette recherche-là en laboratoire, mais aussi de pouvoir la communiquer après, de pouvoir l'écrire, la partager. Donc, de vraiment développer, en fait, plein de compétences transversales en lien avec ce développement du médicament-là ou cette recherche en pharmacologie-là. Ce serait un peu, en résumé, ce que j'ai en tête. Là.
Parce que, justement, en 2023, on doit être de plus en plus polyvalent en tant qu'employé. On doit être de plus en plus outillé dans mm-hmm. différentes sphères, justement, du travail, si on veut. Donc, c'est une bonne définition. Puis toi, si j'allais de ton côté, Éric, qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça?
Oui. Bien, en fait, c'est ça, c'est que le personnel, les étudiants qui sont en études graduées, par exemple, souvent vont être très isolés dans leur laboratoire, vont faire leur projet de recherche. Mais évidemment, si on leur donne une formation où ce qu'ils sont prêts ensuite à aller travailler dans l'industrie ou à faire leur propre recherche, bien, à ce moment-là, ça vient que c'est hautement qualifié parce que les moteurs de l'industrie de la région, particulièrement de Sherbrooke, sont contents à ce moment-là d'avoir des étudiants qui arrivent, qui sortent de l'université, puis qui ont déjà des connaissances dans ce qu'ils vont faire, ou qui sont déjà, comment je pourrais dire, aptes à travailler au niveau industriel.
Puis au niveau industriel, on parlait tantôt d'intelligence artificielle, justement, oui. d'apprentissage par machine. C'est quand même des nouvelles sphères d'apprentissage. Tu sais, je veux dire, ça date pas de 30 ans, 40 ans. Bien, oui, peut-être, mais ça se développe vraiment en accéléré depuis peut-être quelques années. Là, on en entend de plus en plus parler avec la zone d'innovation à Sherbrooke, justement, la zone quantique, tout ça. Donc, on entre là-dedans. Puis, Consortium Acuité Québec s'inscrit vraiment dans cette tendance-là. Donc, du personnel hautement qualifié, ce serait ça. Ce serait du personnel, comme Jérôme dit, qui est très polyvalent, donc il y a plusieurs compétences variées, puis c'est d'où les modules dont on va parler dans quelques instants, justement. Bonjour Marie-Claude.
Bon matin.
Bon matin. Ça a été pénible ce matin pour trouver un stationnement.
Ça va, il fait beau.
Il fait beau au moins, moi, c'est ça. Il fait beau et chaud. Voilà. Je disais en début d'entrevue que je pensais pas faire du balado en short à un moment donné, mais c'est une question de survie aujourd'hui. Donc là, on vient de parler, c'est ça, du Consortium Acuité Québec, pour les gens en ondes qui ne sauraient pas de quoi on parle. Tu sais, ça date du 13 décembre 2021. On a parlé un petit peu d'objectifs, d'accélérer le processus de recherche du médicament, qui est long, qui est cher en ce moment. Donc, on veut utiliser justement les nouvelles trends, que ce soit l'intelligence artificielle, l'apprentissage par machine, pour arriver à accélérer ce processus-là. Mais ça nous prend de la relève qui est capable de suivre ces nouveautés-là aussi, puis de suivre aussi dans l'environnement, comme Jérôme dit, qui est de plus en plus diversifié au niveau culturel, au niveau de compétences transversales qu'on doit développer. Justement, Marie-Claude, toi, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu? C'est une formation à Acuité Québec qui va avoir 4 modules, puis un des modules dont tu vas t'occuper, toi, qui est business et,
propriété intellectuelle.
Pardon, j'avais un petit blanc ce matin. Donc, qu'est-ce qu'on va inculquer? Ça va être quoi la compétence ou les compétences du PHQ qu'on va donner aux étudiants qui vont faire partie de cette formation-là?
Oui, puis peut-être juste pour faire un pont avec la discussion que vous venez d'avoir, l'utilité là, d'avoir des professionnels hautement qualifiés dans le domaine du médicament. Je pense qu'on forme, entre autres, à l'Université de Sherbrooke, des scientifiques extrêmement qualifiés au niveau scientifique, qui ont des compétences techniques, des compétences scientifiques extrêmement développées, très, très bien, sont bien aiguillés dans ce sens-là. Je pense que ce qu'on a besoin de développer davantage, puis moi, dans ma position de directrice du Bureau de la valorisation et des partenariats, ce que je vois beaucoup, c'est l'intérêt des partenaires privés, des compagnies, des pharma, en fait, à ce que nos professionnels développent ce que tu viens de dire, des compétences transverses, c'est-à-dire autant des compétences au niveau de la gestion de projet, de la coordination, des compétences en termes de savoir-faire au niveau également de tout ce qui est organisation de projet. Et donc, dans ça, vient avec la propriété intellectuelle, intellectuelle, entre autres, puis le développement des affaires. Ce que nos partenaires commerciaux veulent, c'est que les professionnels qui travaillent à l'intérieur de leurs murs soient bien outillés pour avoir ces discussions-là avec le management des compagnies. Et donc, le programme Acuité, le programme de formation Acuité, bien, a cet objectif-là de donner des compétences transversales pour s'assurer là, d'avoir les meilleurs scientifiques qui seront capables là, d'assurer des leaderships importants dans les compagnies.
Ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on ne l'a peut-être pas signifié en début d'entrevue, c'est un peu chaotique tout ça, mais la formation, c'est pour des deuxième, troisième cycles.
Exact.
Donc, des étudiants de cycle supérieur, donc qui vont occuper des postes stratégiques dans l'industrie. Alors, d'où l'importance de développer ces compétences transversales-là dont tu viens de parler. Ce qui est très intéressant parce que quand on est dans un cheminement traditionnel ou plus standard, on n'a pas nécessairement accès à tous ces apprentissages-là par rapport au business, propriété intellectuelle, pour être capable d'être en mesure d'être vraiment prêt en arrivant sur le marché du travail pour occuper un poste de leadership important.
Exact.
Donc, très intéressant. Puis ce module-là, il va s'échelonner comment? Comment ça fonctionne pour les gens qui seraient intéressés? C'est une formation complémentaire, je vais juste le dire, du deuxième, troisième cycle, donc qui vient se greffer au cursus normal là, de recherche.
Exact.
Comment ça se traduit dans
le
parcours?
On est encore en train de développer le format, mais probablement là, que ça va s'organiser quelque chose comme une fin de semaine. On veut pas que ça soit trop long, on veut pas que ça soit quelque chose de trop lourd, mais que ça soit agréable, que les gens vont y trouver leur compte. Bon, je viens de le dire, on forme des scientifiques exceptionnels aux études. Maintenant, ce qu'on veut, c'est leur donner ces compétences-là. Moi, quand j'étais étudiante graduée, on n'avait pas la chance de parler de propriété intellectuelle puis de développement des affaires. Ce qu'on va faire là, au travers du module que moi, je vais piloter, ce module-là, ça va être vraiment de connaître les modes de protection de propriété intellectuelle. On va parler de brevets, on va parler de droits d'auteur, on va parler aussi beaucoup de savoir-faire.
Mm-hmm.
Il y a les marques de commerce, on a beaucoup de questions qui viennent en lien avec ça. Donc, les gens connaissent le bon outil pour la bonne protection de propriété intellectuelle. Mais également, il va y avoir un bout sur la création de valeur au travers de la protection de propriété intellectuelle. C'est pas protéger pour protéger, mais vraiment protéger pour créer de la valeur, pour avoir un produit commercial. Puis quand on parle de commercial, ça peut être aussi vers un OBNL. Il y a différents types de partenariats qui peuvent se créer, mm-hmm. mais d'avoir un portefeuille de propriété intellectuelle qui va donner de la valeur à un outil, à une solution, à une compagnie qui va émerger là, de nos découvertes académiques. Donc ça va faire partie d'un module, probablement sur une fin de semaine, qui va être donné par des experts là, en propriété intellectuelle, des agents de brevets, des gens qui œuvrent autant en milieu universitaire qu'en milieu industriel. Et puis on va parler de développement des affaires aussi.
Okay.
Développement des affaires, on va parler intelligence d'affaires, donc reconnaître les marchés, les fenêtres d'opportunité également. Donc, je pense que ça va être un module qui va être très apprécié. On a des partenaires comme l'ACET,
oui.
qui est notre accélérateur local. On a l'AED. On a différents partenaires là, qui vont se greffer à nous pour nous donner davantage d'informations sur le développement des affaires dans le milieu du développement du médicament particulièrement.
Hey, c'est vraiment intéressant. Puis pour les personnes qui voudraient prendre part à cette formation-là, ce qui est intéressant aussi, ce que je retiens, c'est que c'est intensif. Donc les gens, on sait que c'est quand même prenant un programme de recherche au deuxième, troisième cycle. Donc c'est intéressant de voir que ça va être probablement assez concentré. Puis ça va être un peu la même chose du côté de Jérôme avec l'école d'été, avec l'ACFAS qui se greffe aussi. Peux-tu nous parler un petit peu de ce module?
J'avais quasiment envie d'ajouter quelque chose avant parce que je vous écoute parler. Puis je trouve ça super intéressant d'ajouter ce genre de module-là, une formation. Là, moi, je suis passé par là, maîtrise doctorat, comme probablement la plupart des panélistes ici. mais à l'époque, c'était ta formation de maîtrise, ta formation de doctorat, puis c'était tout. Là. Tu finis avec une thèse, avec un mémoire, puis... C'est bien, c'est super en fait, mais c'est pas assez maintenant.
Non, c'est ça, dans le monde aujourd'hui.
Il y a beaucoup de monde qui font des maîtrises et doctorats maintenant, c'est pas comme il y a 50 ans. Puis là, faut que tu te démarques d'une façon ou d'une autre. Fait que ce genre de module de formation-là, c'est vraiment un plus. Fait que pour ceux qui sont au bac, qui envisagent une maîtrise ou qui sont en maîtrise, qui envisagent un doc, je pense que c'est une formation qui est à considérer, en tout cas du moins qui est nécessaire. Il faut aller chercher autre chose. Ces compétences transversales qu'on parlait tantôt, il faut aller les chercher, puis là, c'est une opportunité en or.
Si on se ramène au balado qu'on a eu sur le bac en pharmaco, on sait que la troisième année, il y a des occasions de parler plus de commercialisation, justement. Donc, c'est comme d'aller pousser en pharmaco ces connaissances-là un peu plus loin avec ce que Marie-Claude disait en propriété intellectuelle, tout ça.
Oui, puis on n'est pas nécessairement encore tout à fait fixé sur ce qu'on va faire comme carrière quand on est en maîtrise doctorat. Ça peut paraître paradoxal parce qu'on est très avancé dans nos études universitaires, mais ça reste quand même un peu flou. On ne sait pas exactement où on va atterrir. Fait que même si, sur le coup, peut-être que la propriété intellectuelle, c'est pas quelque chose qui me branche, je pense que c'est important, pareil, de plonger un peu là-dedans quand même, puis d'aller chercher ces notions, ces compétences-là, parce qu'on ne sait jamais quand ça va pouvoir servir, quand ça va pouvoir être utile. Puis peut-être même qu'on va développer un coup de cœur pour ce sujet-là, puis que ça va nous amener plus loin, ailleurs, qu'on avait prévu, finalement.
C'est vrai.
Fait que ce genre de... Je sais pas comment le dire, là, mais ce genre de formation-là, qui est un peu des essais aussi, qu'on fait à travers notre formation de maîtrise doc, c'est super intéressant, je trouve.
Bien, c'est des beaux modules complémentaires. Puis d'ailleurs, toi, tu vas t'occuper d'un module qui te colle bien en étant coordonnateur du Centre des neurosciences de Sherbrooke, là, le module communication scientifique et société. Donc, comment parler à la société?
Oui, bien ça, c'est un élément pour moi qui m'est très cher, évidemment. Là. C'est-à-dire qu'on fait de la recherche, mais il faut redonner tout ça à la société, c'est-à-dire de leur expliquer en mots compréhensibles qu'est-ce qui se passe dans le laboratoire, parce que c'est sûr que c'est complexe, puis c'est sûr que mais c'est super important. Fait que de redonner à la société en communiquant notre science, c'est une compétence qui pour moi est essentielle pour un chercheur, une chercheuse. Donc on avait développé une école d'été en communication scientifique avec qu'on a développé au sein de Neurosciences Sherbrooke, mais qu'on a maintenant comme partenaire l'ACFAS aussi là, pour vraiment j'ai-tu le droit d'utiliser le mot pimper? C'est le mot qui me vient en tête.
J'en utilise tout à l'heure. Ici, assez fac, on peut utiliser des anglicismes.
C'est ça, exact. Donc, on n'est pas à Radio-Can, c'est ça.
Non, c'est ça, on est correct.
Donc, c'est ça, on avait développé une base là, avec Estelle Chamoux, notamment, qui est professeure en communication scientifique, professeure de bio à biologie cellulaire à l'Université Bishop, avec ma collègue Alexandra Chapdelaine, avec qui j'organise toutes sortes d'activités de communication scientifique aussi. Puis on avait cette idée-là de donner des skills aux étudiants, aux étudiantes pour communiquer leur science. Il y en a plein qui ont des idées de projets, d'ateliers ou quoi que ce soit, mais on sent un peu pris au dépourvu, on ne sait pas trop comment faire ça. Puis on y va par essai à erreur, puis souvent ça fonctionne, mais... Tu sais, ça prend du temps avant que ça soit vraiment, vraiment très, très bien adapté. Fait qu'avec cette école-là, ben c'est un peu ce qu'on propose, c'est de dire, t'arrives avec ton idée de projet, pas de projet de recherche, là, de projet de communication scientifique, un atelier dans une école, un spectacle théâtral de science, peu importe. Un projet qui va permettre de transférer les connaissances vers un auditoire quelconque de façon interactive. Fait qu'on, puis là, on va accompagner les étudiants et les étudiantes dans ce processus-là. Fait que dans le cours d'une fin de semaine, on donne des ateliers pour donner des compétences de base. Mm-hmm. Puis on jumelle les étudiants avec des professionnels de la communication scientifique pour un accompagnement personnalisé sur chacun des projets, pour chaque étudiant et étudiante, finalement. Puis ben, ça se poursuit comme cohorte en cours d'année. Fait que c'est intensif sur une fin de semaine, un peu comme dans le cas de ce que Marie-Claude nous parlait tantôt.
On espère que ce ne sera pas la même.
Ouais, il ne faudra pas, là. puis en cours d'année, après, ben, évidemment, en une fin de semaine, on ne s'attend pas à ce que le projet de communication scientifique soit terminé, puis donné, puis prêt à être transféré. Mais on va accompagner les étudiants et les étudiantes pendant un an après pour leur permettre de
mettre au monde leur projet.
Exactement, peut-être faire des essais-erreurs. Puis on fonctionne en mode cohorte. On est une vingtaine d'étudiants par année qui viennent suivre la formation. Puis c'est tous des gens qui sont passionnés, qui ont un intérêt de base pour la communication scientifique. Hein, parce que si tu te lances là-dedans, c'est parce qu'il y a quelque chose, il y a une graine dans toi qui dit que tu veux faire ça. Fait qu'on partage aussi nos expériences, nos connaissances. Puis ça fait grandir chacun des projets de façon communautaire un peu. Là. Fait que,
absolument. C'est intéressant. Puis en plus, ça va dans la même veine que l'Université de Sherbrooke. La recherche et études supérieures ont développé aussi des bourses de valorisation de la recherche. Mm-hmm. Donc, les gens qui vont participer à ce module-là vont aussi pouvoir aller peut-être chercher des bourses en valorisation de la recherche, qui sont des bourses destinées aux étudiants qui vont justement organiser des activités pour partager des connaissances, vulgariser tout ça. Donc, c'est super intéressant.
T'sais, j'ajouterais que dans le cadre d'Acuité Québec, de ce qu'on parlait tantôt avec tous les modules, c'est quelque chose qui va soutenir la formation des étudiants qui vont participer à ces projets de recherche-là, mais ça reste quand même une école d'été qui est ouverte à tous parce que c'est une collaboration avec l'ACFAS, donc c'est francophonie, grosso modo, fait que quiconque est intéressé à participer pourraient aussi le faire. Là. On a appelé cette école-là Prendre part. Là. Ça, pour moi, ça me parle beaucoup. Oui. Ça veut vraiment dire de participer à la démocratie, participer à avoir un rôle sociétal.
À démocratiser
finalement.
La science, justement, à aussi, la rendre plus accessible, oui, exactement. Puis, donc, voilà. Puis l'ACFAS, peut-être juste faire une parenthèse pour les gens qui ne sauraient pas, je ne sais pas qui ne saurait pas ça à l'Université de Sherbrooke, mais les gens qui ne sauraient pas en ondes, c'est justement c'est une organisation qui vise à promouvoir la recherche en français. Parce qu'on sait que la recherche est beaucoup faite en anglais à travers le monde. Donc, on essaie de promouvoir les publications en français, les présentations, les conférences en français. Donc, c'est une super belle organisation.
Ils ont toutes sortes de concours, le fun, là, ma thèse en 180 secondes, ça vient d'eux aussi. Mm-hmm. Des concours de photos, des vulgarisatons, toutes sortes de trucs vraiment le fun pour...
Les journées de la relève
développer, ouais, c'est ça. Développer des compétences en communication scientifique de différentes façons. Tu sais, tu veux faire de la bande dessinée, ça sera pas pour notre école d'été parce que la bande dessinée, c'est plus unilatéral, unidirectionnel. Ouais. Tu sais, tu fais une bande dessinée puis tu la lances dans le monde puis les gens c'est vont ça. La lire. Fait que c'est intéressant. Tu communiques la science pareil. Mais nous, ce qu'on vise vraiment, c'est une participation, une conversation du public. Fait qu'à la limite même de créer l'atelier ou l'activité de communication scientifique avec eux pour que ce soit vraiment adapté à l'auditoire.
Absolument.
C'est ce qui est intéressant, je trouve.
Oui, puis quand on a fait il va y avoir des feuillets qui vont sortir pour chaque module bientôt, là, sont en création, mais quand on a fait le module ensemble, tu sais, c'est ça, il y avait toute la partie aussi publique. Qui est votre public? Comment aller le toucher? Parce que selon, c'est des enfants, c'est des personnes âgées.
C'est super important, oui.
C'est très important. Nous, on le voit. Moi, je suis en communication. Vous savez, c'est ma c'est ma zone. Bien, on le voit, le public, c'est très important, l'objectif de communication aussi.
On s'amuse à dire que le grand public n'existait pas. Là. On utilise toujours cette expression-là, activité pour le grand public, mais ça n'existe pas, le grand public. Là. Il y a tellement de publics variés, il faut s'adapter à ce public-là, puis c'est super important. Les formats sont importants, donc c'est un peu... Ouais. La culture institutionnelle aussi, c'est des thématiques qu'on aborde au sein de l'école d'été aussi.
Puis on se rend compte de plus en plus avec tout l'accès à l'information, c'est important que la société soit bien informée, que ce soit bien communiqué la science pour qu'on soit capable justement de s'assurer que la compréhension est la bonne puis la même pour tout le monde. Donc c'est vraiment une compétence qui est recherchée en 2020.
Je pense, on dirait que la COVID nous a révélé ça un peu.
La COVID nous a révélé qu'il y avait peut-être un petit vide à aller combler avec ça. Merci beaucoup, Jérôme. Si on va du côté d'Éric, on revient vers toi avant que tu t'endormes sur ton micro. Toi, tu vas t'occuper plus du module technologie innovante, donc tout ce qui est plateforme technologique. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce module-là?
Oui, ça, en fait, c'est en deux temps, je dirais même, parce qu'en premier temps, on pourrait parler que les étudiants qui vont participer à ce programme-là vont avoir l'opportunité d'avoir accès ou de une genre de formation de training, on va dire, on prend un mot, sur une plateforme en particulier. Par exemple, si pendant votre projet de recherche, vous seriez intéressé à voir comment on fait des études avec un ordinateur quantique, par exemple, ou des algorithmes quantiques. Bien ça, le programme va donner l'opportunité de pouvoir finalement utiliser ces plateformes-là, même en dehors de votre projet de recherche.
Juste pour apprendre à les faire fonctionner.
Oui, c'est ça. C'est pour voir, tu sais, voir comment que ça fonctionne. Puis en même temps, comme on discutait aussi entre nous, je pense qu'on va en profiter pour, en même temps qu'on donne un apprentissage là, ou une formation pour cette plateforme-là, on va aussi donner une formation comment la gérer.
OK.
Tu sais, par exemple, parce que quelqu'un qui va être responsable d'une plateforme va souvent avoir à discuter avec des clients.
Mm-hmm.
Par exemple, il va avoir
à vendre sa salade pour
donc, est-ce qu'il va avoir des soumissions à faire? Voici ce que je peux vous faire pour vous, ça va coûter tant.
Ouais.
Puis en même temps, en contrepartie, il faut que la personne qui gère aussi soit capable d'avoir le matériel nécessaire pour faire ces projets-là. Donc, c'est un peu une petite formation qu'on peut donner aussi pour... Quand vous avez une plateforme comme ça, voici ce que vous avez à être au courant d'eux pour pouvoir la gérer. Ça, c'est le premier type. Puis écoutez, là...
Combien de plateformes?
Oui, c'est ça j'allais dire. Je me suis amené une liste parce que c'est sûr
parce que
j'allais
en
oublier.
Parce que là, on a dit tantôt, il y a plusieurs universités impliquées. Il y a le MILA, il y a l'IRIC.
C'est ça.
Qui est un institut de l'Université de Montréal. En fait, je pense que les deux, c'est des instituts de l'Université de Montréal, le MILA puis l'IRIC. Donc, c'est interuniversitaire. On a aussi le Sainte-Justine, le Centre de recherche, tout ça. Fait que combien que ça fait de plateformes?
Il y en a beaucoup. Il y en a à peu près une
vingtaine.
Juste
à l'université, il y en a pas mal.
Il y en a qui se recoupent selon l'institution, évidemment. Mais dans les plus grandes, c'est par exemple, il va y avoir des plateformes en imagerie, il va y avoir des plateformes en microscopie.
Okay.
Et puis, microscopie, c'est large. Là. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de microscopes possibles qu'on peut avoir dans un institut. Ensuite, évidemment, il y a le quantique, comme je mentionnais. Il y a aussi la synthèse de peptides. Par exemple, si vous voulez faire des médicaments ou des petites molécules qu'on appelle. Donc, on a ce service-là à l'Institut de pharmacologie. Et
bioanalyse.
Puis, ouais, donc, bioanalyse, oui, là aussi. Écoutez, il y en a beaucoup. Bioinformatique, histologie. Donc, je peux en nommer là, pendant beaucoup, mais on n'a pas non plus tant de temps que ça. Là.
Donc, une vingtaine à peu près. Là.
C'est ça. Mais les étudiants qui vont être au programme de formation à côté vont avoir l'occasion de pouvoir faire une formation pour une ou deux de ces plateformes-là pendant peut-être une semaine ou peut-être trois, quatre jours, là, des fois selon la plateforme. Là.
Okay.
Et puis, on va leur donner la chance aussi de pouvoir participer à l'utilisation de cette plateforme-là. Pas juste de regarder comment ça marche. Là. On va
se mettre les mains dedans.
Un petit projet d'un jour, là, qui, c'est ça. Donc,
oui, Marie-Claude.
Ouais.
Mais juste pour rajouter, en fait, que à l'intérieur du programme Acuité, les personnes qui vont se joindre à nous vont avoir l'occasion d'aller faire des stages également, stages en milieu industriel. Ouais. Donc, tout dépendant du programme de formation auquel ils sont rendus, maîtrise, doctorat, ça va être des stages de 4 à 8 mois chez nos partenaires industriels qui sont impliqués dans le développement du médicament. Fait que ça peut être vraiment une opportunité exceptionnelle. On a des stages à Sherbrooke, à Montréal, puis il y en a même à l'étranger.
À Paris, on pense à Qubit qui s'est joint récemment au consortium. Il va y en avoir d'autres probablement aussi. Les portes sont quand même ouvertes pour les nouveaux partenariats. Puis si je ne me trompe pas, pour faire du pouce à ce que tu dis, dans une participation, par exemple, un étudiant de deuxième, troisième cycle va avoir un professeur impliqué dans la formation Acuité et une industrie impliquée. Donc, le stage va probablement se faire dans l'industrie impliquée dans la continuité du projet.
Pas nécessairement.
Pas nécessairement.
Il peut y avoir des combinaisons différentes également.
Okay.
L'idée, c'est de créer de la valeur puis que la personne étudiante là, se sente vraiment interpellée par le projet qui va mener, indépendamment de son projet de recherche. Bien sûr, le mieux ce sera, mais je pense qu'ici, c'est créer de la valeur autant dans les compétences transversales que dans les compétences scientifiques, puis que tout ça se rejoigne à la fin pour faire un beau bagage pour la personne étudiante qui va terminer son cursus de formation.
Ben oui, moi, vous écoutez parler, excuse Éric, je voulais pas te couper, mais j'entends un CV vraiment pimpé, pour reprendre le mot de Jérôme, mais tu sais, non, mais d'avoir plusieurs compétences à ajouter, tu sais, les plateformes technologiques, moi, je ferais quasiment le parallèle avec, tu sais, est-ce que tu connais la suite Office? Est-ce que, tu sais, quand tu veux t'engager de mon côté en communication, vous autres, c'est les plateformes.
Mais
oui,
ben, c'est juste exactement ce que j'allais dire. Tantôt, Jérôme ou Marie-Claude parlaient de se démarquer. Ben, l'étudiant qui va avoir fait la formation à Acuité, il va avoir eu une formation au niveau business, au niveau propriété intellectuelle. Il va pouvoir communiquer très bien en le niveau scientifique. Il a accès à des plateformes. Il va faire des stages dans des industries. Alors,
un paquet de contacts aussi.
Si vous comparez la formation que, comme disait Jérôme, que nous, on faisait à maîtrise ou au doctorat, là, je compare un étudiant qui traditionnel, puis un étudiant qui sort de ce programme-là, en plus, vous vous faites connaître au niveau de l'industrie. Parce que si vous faites un stage de plusieurs mois dans une industrie, vous vous faites connaître.
Faites un nom.
C'est ça.
C'est ça, un nom dans l'industrie, alors que sinon, on reste vraiment plus... Bien, on ne veut pas non plus dire que les programmes standards sont pas corrects. Comme Marie-Claude le disait, on forme de très bons scientifiques déjà, mais c'est comme ça ajoute une autre couche de plus. Puis qu'est-ce que j'allais dire avec ça? C'est ça, c'est que ça ajoute une couche de plus. Puis ce qui est important à dire aussi, c'est que ça va être une formation intensive, oui, mais aussi accréditée éventuellement. Donc, pour les étudiants qui vont se joindre à cette formation-là, on a toujours des cours à option, soit à la maîtrise ou au doctorat, mais ça va pouvoir devenir un cours à option. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est sûr que c'est un engagement là, plein, là, la formation Acuité Québec. C'est pas juste les petites fins de semaine qu'on parlait. Il faut vraiment s'engager à mener à bien le projet dans lequel on s'engage. Par contre, c'est intéressant parce qu'on a l'accréditation, ce qui vient combler des crédits. Donc, en même temps, on avance dans notre parcours standard. Merci pour les clarifications. On a aussi un quatrième module avec Ève Langelier qui pouvait malheureusement pas être avec nous ce matin. Qui va être sur l'EDI. Ça, c'est sur toutes les lèvres, EDI en ce moment, équité, diversité, inclusion. Je ne sais pas, Éric, si tu voulais nous en glisser un petit mot, peut-être?
C'est surtout que c'est très important pour nous, pour l'université, que les étudiants, que le programme, en fait, qu'on développe soit diversifié. Il faut être capable d'avoir au niveau toutes les quatre, comment je peux dire ça, la diversité au niveau...
Ouais.
Culturel, que ce soit de genre, de tout. Donc, parce que ça amène un brassage d'idées, puis quand les gens pensent différemment, quand les gens viennent de différentes cultures, quand ça vient de différents endroits, on amène de nouvelles idées, puis on met tout ça ensemble. Puis...
Ben oui, puis comme on disait avant d'entrer en onde, tu sais, quand on a juste des gens tous pareils à sa table, ils pensent tous pareils. Tandis que si on inclut des personnes différentes, comment tu as dit ça, un ragoût? Ça fait un ragoût.
Ouais,
on a plein de, on a plein d'idées différentes, des perspectives.
Un délicieux ragoût, je disais.
Un délicieux ragoût avec des... Oui, parce que ragoût, ça peut sonner moins délicieux.
J'ai rajouté délicieux.
On arrive à l'automne, je pense qu'il y a grand monde qui ont le goût de manger du ragoût aujourd'hui avec la température qu'il fait. Mais c'est Ève Langelier qui va être justement responsable de ce module-là. Qui de mieux pour être responsable de ce module-là? On se rappelle que Ève Langelier, Et oui, elle est professeure à la Faculté de génie à l'Université de Sherbrooke, mais elle est aussi titulaire de la chaire pour les femmes en sciences et en génie au Québec. Donc, c'est quand même quelqu'un qui est très, très branché sur les tendances de DI. On parle d'écriture épicène, écriture inclusive de plus en plus, justement pour savoir comment agir avec l'interculturalité, les minorités, les personnes qu'on voit moins, là, comme la non-binarité, tout ça. Il y a toutes sortes de les nouveaux pronoms, yel, tout ça. Donc, comment on navigue là-dedans? On parlait tantôt de complexité en 2023. Ça devient de plus en plus, mais pas complexe, mais j'aime pas le mot, mais riche. Donc, on a de plus en plus de choses à prendre en compte quand, mm-hmm. Quand on travaille
on dans les environnements. On parlait de public cible tantôt aussi pour la communication. Ça va être éventuellement un public à cibler parce que c'est sous-représenté en général en sciences. Donc, tous ces publics-là, finalement, pourront faire l'objet de la cible à l'école d'été, finalement.
Ben oui, absolument. Puis on sait aussi que, tu sais, les femmes en sciences, ça fait pas si longtemps, quand on parle historiquement, par exemple, qu'on a une place dans les sciences fondamentales. Donc là, on essaie d'entrer d'autres diversités encore. Donc ça demande une attention particulière, puis ça demande des compétences pour être capable de faire une place fortement mérité à toutes ces personnes-là qui veulent faire leur place dans les sciences fondamentales.
Ouais. On va également, à l'intérieur de chaque module, là, prendre en compte les facteurs EDI, bien les intégrer, même quand on va parler de stratégie de propriété intellectuelle ou de développement de marché, par exemple. On a l'intention, entre autres, de faire des sessions d'idéation. On va expliquer, entre autres, des grandes percées, comment ces grandes percées-là sont arriver sur le marché. On va partir de ces principes-là, de ces exemples-là, pour ensuite vraiment réfléchir avec les différentes personnes qui vont être autour de la table pour partir construire une idéologie inspirante pour développer des nouvelles idées. On pense que les nouvelles idées émergent tous du même endroit, mais non, ça va être en discutant puis en ayant ces sessions de brainstorming, je dirais, qu'on va faciliter puis qu'on va pousser un peu la réflexion plus loin en ayant là, des discussions bien variées avec tous les acteurs qui seront autour de la table, puis ce qui va nous emmener à aborder les différents concepts aussi. Si je peux me permettre, en propriété intellectuelle, entre autres, souvent on s'intéresse au statut d'auteur, d'inventeur, comment on définit ces statuts-là. Encore là, il y a plein de principes qui sont à revisiter. On va parler de stratégie de capital de risque aussi. Donc, je pense que ça s'avère être, ça va être bien intéressant.
J'en suis convaincue. Juste avec les trois personnes qui sont ici ce matin, puis Eve Langelier qui est pas avec nous, mais je suis convaincue qu'avec les quatre personnes, ça va être super stimulant, super trippant. Puis d'ailleurs, on va terminer déjà. Il est 11h01 déjà. Donc, si les gens en ondes se demandent comment manifester leur intérêt pour participer à ce programme de formation-là, faut dire, comme Marie-Claude disait, qu'il est encore à ses tout débuts, à ses balbutiements. On travaille dessus présentement. C'est un programme qui va durer sur une période de 6 ans quand même, donc c'est une longue période. Tout de même, allez voir le site acuitéquebec.ca, donc c'est www.acuitéquebecqc.ca. Donc, vous pourrez trouver là-dessus plus d'informations sur la formation dont on vient de parler ce matin et éventuellement une page pour postuler. Sinon, bien, c'est sûr qu'Éric Leblanc, qui est avec nous ce matin, peut prendre les courriels pour tous les gens qui seraient intéressés à en savoir plus ou à faire partie des gens qui terminent le bac cette année ou des gens qui cherche justement une formation variée et complète justement pour le deuxième, troisième cycle. Vous pouvez communiquer avec Éric Leblanc. Le courriel va être mis justement sur notre page Facebook. Vous pourrez communiquer avec lui, puis on l'a également sur la page du site web acuitéquebec.ca. Alors, je vous remercie tout le monde d'avoir été là ce matin. Ça n'a pas été évident avec la chaleur, le stationnement, tout ça, mais je suis vraiment contente d'avoir pu vous avoir en onde avec moi. Donc, on va sûrement se revoir en cours de route quand on va avoir des étudiants, les premières expériences étudiantes cette année pour qu'ils puissent nous parler justement de ce qu'ils vivent à travers ces différents modules-là. On va probablement aussi avoir Eve Langelier un autre moment durant l'année pour nous parler plus profondément de DI, parce qu'on sait que c'est vraiment très complexe comme notion. Donc, ça vaudra peut-être la peine d'avoir justement un balado qui parle uniquement de DI durant l'année. Alors, merci à tous, puis je vous souhaite une excellente journée. Ça m'a fait plaisir.
Merci.
Puis, bonne continuité, puis bon début de programme de formation. Je suis convaincue que ça va être super, super intéressant. Bonne journée
merci,
à tous.
Merci, bonne journée.
Merci. Merci.